minutes de largeur, donc ça va. Donc j'ai été chargée de faire une petite conférence, ça me semble un grand mot pour moi, mais disons une causerie sur Pierre Bergès, qui est quand même mon beau-père et qui, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Donc, comment faire pour parler d'une personne aussi riche culturellement, intellectuellement, je ne savais pas trop comment m'y prendre, et finalement je me suis dit que le mieux c'était tout simplement de vous raconter sa vie, et qu'au fur et à mesure de l'évocation de sa vie, on pourrait voir de quelle façon un homme est transformé par non seulement par l'éducation qu'il reçoit, par le lieu où il naît, où il habite, où il va aller, mais il est transformé, il subit des influences par les choix qu'il a faits, mais aussi par les rencontres inopinées. Donc à la fois c'est le hasard et les choix qui nous forment tous, et spécialement Pierre. Alors, Pierre Bergès, au départ, s'appelait donc Edmond Pierre Charles Émile. Quatre prénoms, et toute sa jeunesse, il s'est appelé Edmond, jusqu'à ce qu'il rencontre sa future femme, qui n'aimait pas trop Edmond, surtout que ses copains l'appelaient Momon. Elle trouvait que Edmond Pierre, c'était mieux.
On l'appelait Momon.
Voilà. Edmond Pierre, c'était mieux, et finalement, Pierre. Donc, le début de sa vie, c'est Edmond. Ensuite, il passe à Edmond Pierre, et ensuite à Pierre Bergès. Alors, Edmond Bergès est né à 50 mètres d'ici, à Issy-Jacq. Son papa est ferblantier, c'est un artisan du village. Il est marié à Hermina, Gaston et Hermina Bergès. Ils ont le petit magasin de ferblanterie. La maman est très occupée, évidemment, à élever ses deux enfants. Il y a un premier fils, Charles, le frère aîné de Pierre. Et le papa est artisan, va à droite, à gauche. Alors à cette époque, être ferblantier au début du XXe siècle, c'était fabriquer des tas d'objets utiles, des seaux, des arrosoirs, des bassines, je ne sais quoi, parce que j'ignore un peu le métier de ferblanterie. Mais c'était très important dans un village, c'était quelque chose de très utile. Et c'était un vrai métier. Donc, Pierre est né à la campagne, ici au village. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il va parler patois avec ses parents, parce que ses parents s'expriment en patois entre eux, comme tous les gens du village. Et puis, il va rentrer à l'école élémentaire, où là, il faut parler français. Et son instituteur, voyant que il y avait quand même beaucoup de travail à faire pour lui apprendre le français, va le confier à son épouse, qui était institutrice de l'école de filles, parce qu'à l'époque, filles et garçons, ça ne se mélangeait pas. Hein. Et alors là, il nous a raconté un petit passage très très émouvant, c'est-à-dire que cette institutrice, apparemment adorable, d'après Pierre Bergès, lui enseignait le français et l'a certainement très très bien fait, car c'est un homme qui a toujours aimé cette langue française, qui est devenu un très grand lecteur, qui a beaucoup beaucoup lu. Et tout de même, pendant ses leçons de français, ben, il faisait des bêtises. Hein. Il ne devait pas être le seul d'ailleurs, on apprenait certainement le français aux autres gamins du village. Et quand il avait fait trop de bêtises, il racontait que la maîtresse donnait sa main à caresser. Alors là, il adorait. Donc, il caressait la main de la maîtresse en punition. Il y a pire comme punition. Bon, évidemment, de nos jours, ça serait mal vu. De nos jours, on ne pourrait pas envisager qu'un enseignant fasse ça. Une enseignante fasse ça, ça serait très mal noté. Mais lui, il en garde un souvenir ému, merveilleux, voilà. Donc, il va apprendre le français, il va avoir une enfance heureuse, l'enfance d'un petit campagnard. Au début du XXe siècle, les enfants à la campagne étaient très libres. D'abord, les parents avaient beaucoup de travail, aussi bien les mamans que les papas. Les mamans s'occupaient du potager, on allait au lavoir laver le linge. En fait, la vie était quand même difficile. Et les enfants, ils étaient libres, ils couraient dans la campagne en bande, ils allaient pêcher dans les ruisseaux, ils allaient voir les moissons, ils allaient voir les bœufs dans les étables. C'est une enfance d'une part heureuse, mais aussi c'est une enfance où la personnalité se forge parce que, évidemment, à condition d'avoir ce caractère, parce que ça, je vais y revenir, mais c'est une enfance où on est témoin du spectacle de la campagne, du spectacle des saisons. Il n'y a qu'à la campagne qu'on voit aussi bien les saisons, les couleurs des paysages, des arbres, des feuilles, des plantes, des légumes du jardin. On voit le travail dans les champs, on voit les chasseurs, on voit il y a un spectacle extraordinaire et qui n'oubliera jamais et qui fait vraiment partie de son bagage culturel. Alors ça parce que on est tous avec certaines fées qui nous donnent des dons à la naissance, et lui il avait ce don du regard, de la curiosité et de la mémoire. Il enregistrait et tout ça, ça restait dedans, ça restait en lui. Alors donc, c'est un élément, disons, fondateur de sa personnalité, cette enfance à la campagne. Est-ce que, avant de passer, la famille va, après la guerre, en 1920, va partir à Paris. C'est une occasion, le papa va avoir un travail à Paris, dans une usine. On avait reconnu son savoir-faire, il aura un poste intéressant. Et donc, toute la famille va déménager. Et pour le petit Pierre, c'est évidemment un grand changement. Et quand on est un petit garçon, enfin un jeune garçon, puisqu'il avait quand même 10-11 ans, il est parti à Paris, qu'on est curieux, qu'on est débrouillard, Paris, c'est un immense terrain de découverte. Et ça va être comme ça toute sa vie. Il va adorer cette ville avec ses monuments, ses paysages, ses rues, tous les trésors que Paris recèle. Alors, Pierre Belvès, enfin Edmond Belvès, rentre au petit lycée à Paris, et là aussi, la chance fait qu'il va tomber sur des enseignants qui vont savoir très bien le comprendre et lui faire découvrir des tas de choses. Entre autres, il raconte la première fois où il est rentré dans le musée du Louvre. Alors, en se promenant, avant, il allait à droite à gauche, il a bien vu ces grands bâtiments, c'était les palais des rois, il y avait la Seine, il y avait Notre-Dame, il y avait des tas de merveilles à découvrir. Mais il n'avait jamais pénétré. Et quand pour la première fois, il a pénétré dans le musée du Louvre, ça a été l'éblouissement. Et il nous a dit vraiment, j'ai été ébloui par ce qu'il y avait, par la beauté. Il avait cette sensibilité qui faisait que les choses qui étaient là, il en ressentait, dès cet âge-là, il en ressentait la beauté. Il l'avait déjà ressenti à la campagne. Il l'avait vu, la beauté de la campagne. Il avait vu, dans les photos qui sont exposées, on comprend qu'il avait ce regard. Il voyait la beauté d'une mousse, d'une fleur, d'un chemin, d'un coucher de soleil. Ça, il le voyait. Mais là, la beauté transcrite par les artistes, ça, il ne la connaissait pas. Il y avait quand même un petit passage que j'ai oublié de vous citer à Issy-Jacques. comme tous les enfants à l'époque, il allait au catéchisme et il aidait le curé, il était peut-être enfant de cœur, il aidait le curé pour des cérémonies. Et un jour où il avait rendu beaucoup de services au brave curé d'Issijac, le curé lui avait donné une image, une belle image, qui représentait la Vierge de Cimabue, qui est un primitif italien, un peu de l'époque de Frangilico. Et cette image, à l'époque, il n'en avait pas tant que ça des images, il n'en avait certainement pas du tout. Donc il a rapporté cette image à la maison. Il devait avoir peut-être 7-8 ans, et il l'a copié, il l'a redessiné. C'est une image qui représente une madone à l'enfant entourée d'angelots. Il l'a entièrement recopié, et il nous a raconté que là, il a senti qu'il y avait quelque chose quand même qui lui faisait, en redessinant à sa façon cette image, il a senti quelque chose qui lui plaisait. C'était certainement un premier appel de ce qui allait être sa vocation de dessinateur. Alors donc, Edmond découvre le Louvre. Il découvre aussi que, en copiant la Vierge de Cimabue, finalement, il aime bien dessiner. Il va s'inscrire au cours du soir. Des beaux-arts de la ville de Paris, ce sont des cours gratuits où on peut aller facilement et qui lui permettent d'avoir une première approche, savoir si réellement c'est sa vocation ou c'est pas sa vocation. Donc ça c'est une première chose. Et puis, alors il y a eu quelque chose d'important après la Grande Guerre. Les Américains, qui nous ont rendu quand même pas mal de services, il faut quand même le reconnaître, et qui étaient assez en avance dans le domaine de l'éducation de la jeunesse, avaient décidé d'offrir à Londres et à Paris, à la France et à l'Angleterre, des bibliothèques, une dans chaque ville, spécialement destinées et uniquement destinées aux enfants. C'était à Paris, donc, la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, non loin de la Sorbonne. Donc, cette bibliothèque était destinée aux enfants à partir de la petite enfance jusqu'aux grands adolescents, dans des locaux très aérés, très clairs, des grandes baies vitrées, un accueil avec des personnes qui étaient formées à accueillir les enfants, des dames souriantes, des tables, des chaises, enfin quelque chose dont on n'avait pas l'habitude du tout dans les bibliothèques municipales qui étaient très strictes et où on rigolait pas. Hein. Là, c'était merveilleux. Donc, Pierre Belvès, je ne sais pas comment il est arrivé là, certainement il était à l'écoute de toutes les informations de ce genre, et il y va, évidemment, ça lui plaît énormément. Et donc, il va retourner au lycée, voir ses copains de classe, et il va dire, écoutez, j'ai découvert quelque chose de formidable, une bibliothèque, rien que pour nous, les jeunes, ah bon, et en plus, il y a des filles. Parce que, bon, donc, les copains, ils vont, effectivement, cette bibliothèque va devenir une pépinière de pédagogues. Les jeunes, ils sont à l'aise, ils lisent, ils sont encouragés à lire, il y a des lectures à haute voix, il y a des jeunes qui peuvent discuter entre eux, des jeunes ou des enfants, selon les groupes, entre eux des lectures qu'ils font. C'est vraiment un moyen culturel extraordinaire pour l'époque. Et bien sûr, on peut aussi emprunter des livres, les ramener à la maison. Et d'ailleurs, un jour, sa maman, le voyant revenir avec sa charge de livres, lui dit « Mais enfin, Pierre, ou plutôt, enfin, Edmond, tu ne vas pas les avoir bientôt tous lus ?» Eh bien non, il ne les avait pas tous lus. Cette bibliothèque de l'Heure Joyeuse va jouer un rôle énorme dans la vie de Pierre. J'arrive pas à l'appeler Edmond, mais enfin bon, à l'époque, c'était Edmond. C'est là qu'il va rencontrer sa future femme, car il avait repéré une jeune fille charmante. Et comme on n'abordait pas à l'époque les jeunes filles comme ça, hein, c'est pas comme aujourd'hui, il essayait de voir les livres qu'elles empruntaient et il empruntait les mêmes. Comme ça, il pouvait lire en même temps qu'elle le même texte. Et quand il pouvait, il lui disait, mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez du chapitre ? C'était une entrée en matière, ça a très bien marché puisqu'il a fini par l'épouser. Il a rencontré là quelqu'un d'important, c'est donc Paul Fauché, qui était évidemment une personne déjà adulte et bien engagée dans la vie. Paul Fauché était extrêmement intéressé par tout ce qui concernait l'éducation nouvelle. Alors l'éducation, c'est quelque chose qui est le souci des humains depuis l'Antiquité. Et depuis l'Antiquité, c'est toujours une éducation nouvelle. Hein, et dans 100 ans, ça sera l'éducation nouvelle. Et Paul Fauché allait à de nombreux congrès, à des réunions dans l'Europe entière. Et évidemment, Pierre, ça l'intéressait. Là aussi, il tiquait là. Voilà, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et Paul Fauché a repéré Pierre, qui faisait des dessins, qui lisait beaucoup, et il l'a encouragé et il lui a organisé une première petite exposition dans la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, une petite exposition de ses tableaux. Et il a entretenu avec Pierre des liens que l'on peut dire plus qu'amicaux, qui ne cesseront jamais et qui vont être décisifs pour toute la carrière de Pierre, parce que vraiment, Paul Fauché, c'est quelqu'un qui va, d'ailleurs là, dans le petit catalogue, j'espère que vous avez tous ce petit catalogue, il y a un hommage que Pierre dit au moment de la mort de Paul Fauché. Alors, je vais vous en lire un passage. C'est donc Pierre qui parle. C'est en 1927, alors que j'étais tout jeune lecteur d'une bibliothèque enfantine, que le père Castor s'intéresse à moi et qu'il y eut cet éveil merveilleux qui n'a jamais cessé depuis d'exister, avec sérénité, au-delà même de sa mort qui me paraît irréelle. Il faut l'avoir connu dans son travail et dans sa vie pour savoir combien il apportait et offrait de lui-même. Comment il savait parler de toutes choses, comprendre et déceler ce qui était le meilleur en chacun de nous. Éducateur compréhensif, il le fut au plus haut degré, mais il savait aussi être un homme simple, sensible, élégant en tout. Et ce que Pierre dit de Paul Fauché là, je pense que ça a été pour lui un modèle, parce qu'on pourrait à nouveau le dire de Pierre Belvès, qui a suivi ce chemin et qui est devenu un petit peu le double. Donc, voilà, c'est une rencontre très très importante et ils ne vont pas, ils vont se quitter physiquement puisqu'ils n'habiteront pas du tout aux mêmes endroits, mais ils seront en lien continuellement et Paul Fauché va confier beaucoup d'albums à illustrer à Pierre. Alors le père Castor, Paul Fauché, va présenter à Pierre Belvès un homme. Un mécène. On ne disait pas un sponsor à l'époque, on disait un mécène. C'est-à-dire un homme qui a une fortune et qui désire aider des jeunes. Ce mécène, c'était le comte Philippon. Un homme déjà d'un certain âge, veuf, sans enfant, qui possédait un château dans la vallée de Chevreuse, le château de Vercœur. Et qui désirait aider des jeunes dans leur chemin artistique. Donc, Paul Fauché va les présenter. le courant va passer entre les deux et le comte Philippon décide d'aider Edmond Pierre. À ce moment-là, c'était Edmond Pierre, il avait déjà commencé à basculer avec Lucienne Belvès qui poussait à la roue. Il va aider Edmond Pierre déjà pour financer une partie de ses études, parce que Pierre, à ce moment-là, a réussi le concours d'entrée à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de la rue d'Ulm. Et il va être formé donc pendant 4 ans dans cette école. Enfin, en fait, ça va faire 5 ans parce qu'il va faire son service militaire au milieu. Et ce genre d'études, c'est une école nationale, donc l'école elle-même ne coûte pas très cher, mais on dépense beaucoup d'argent en matériel, en peinture, en toile, en toutes sortes de choses. Donc le comte Philippon est là, et il est là non seulement pour ça, mais il est là pour, dans l'idée de développer la vision de Pierre Belvès. Il va lui financer des voyages à l'étranger. Le premier voyage, c'est le voyage en Espagne. Alors, Pierre connaissait assez bien les peintres, les grands peintres espagnols, Goya, Velázquez et bien d'autres, pour avoir vu des toiles dans les musées ou des reproductions. Mais à l'époque, les livres d'art, c'était en noir et blanc, c'était pas terrible. Hein. Il fallait vraiment les voir en vrai. Mais c'est une grande chance parce que Pierre va partir en voyage pendant un peu plus d'un mois avec sa valise d'une main et de l'autre côté son chevalet, ses toiles, ses crayons, ses palettes, ses couleurs, son costume. À l'époque, on ne voyageait pas en jean, hein, son costume, son chapeau, et il va partir comme ça à l'aventure. On connaît beaucoup, beaucoup de choses depuis peu de temps de ce voyage parce qu'il s'est passé une chose un peu bizarre. Quoi, le hasard joue bien. Il y a un peu plus d'un an et demi, une de nos filles nous appelle et nous dit il y a une lettre de Papy Pierre en vente sur eBay. Comment est-ce possible? Vous imaginez une lettre de votre grand-père en vente sur eBay? Ça me semble bizarre. Donc, Yves va voir sur eBay, effectivement, une lettre de Pierre Belvès datant de 1928, s'adressant au comte Philippon, est en vente sur eBay pour une somme relativement correcte. Donc, on met une enchère, c'était pas cher du tout. Quelqu'un réenchérit, on a cette lettre pour, je sais pas, 10 ou 15 euros. Elle arrive. On était étonnés, on se dit, bon, mais comment c'est arrivé? On se posait beaucoup de questions, on savait bien qu'il y avait eu ce mécène, mais on ne savait pas grand-chose d'autre de ce voyage en Espagne. Et puis une deuxième lettre apparaît sur eBay, comme ça. Et donc on a creusé la situation, et voilà ce qui s'est passé. Le comte Philippon a financé le voyage de Pierre. Pierre était vraiment très reconnaissant et à toutes les étapes de son voyage, écrivait une belle lettre à son mécène en racontant les belles choses qu'il avait vues dans les musées, les tableaux qu'il avait dessinés et peints. Et il postait régulièrement. Le comte Philippon gardait toutes ses lettres, heureusement, et il s'est trouvé que quelques années après, ce comte meurt, il décède. Il n'a pas d'héritier, c'est toute une affaire, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé pendant la guerre, mais après la guerre, le général de Gaulle rachète le château de Vercœur, qui était un petit château, hein, c'était pas Chambord, hein, c'était un petit château. Le général de Gaulle rachète ce château pour en faire une fondation pour enfants handicapés, parce qu'il avait une fille qui était trisomique, voilà, bon. Donc la fondation fonctionne, tant bien que mal, je ne sais pas vraiment très bien, mais un beau jour, ils ont besoin d'argent. Et on n'a plus d'argent dans la fondation, donc on se dit, ça se faisait comme ça un peu dans les abbayes, on va aller voir au grenier, il y a peut-être des choses. Et au grenier, ils trouvent des coffres avec de la correspondance du comte Philippon. Alors, ils ont mis ça en vente à Drouot, des coffres ou des caisses de correspondance, et un antiquaire à la retraite, certainement, a acheté une caisse, et puis s'est mis devant son ordinateur et a sorti une lettre, et a dit, allez hop, je la mets sur eBay, on va voir si ça prend. La pêche a été bonne, en tout cas pour la correspondance de Pierre Mévès, puisque dès qu'il en sort une, clouc, ça mord. Ça marche bien. Voilà, donc il a une bonne collection, un beau dossier de... Voilà. Combien ?
39.
Voilà, quand même, et c'est peut-être pas fini. Et comme ça, on a pu voir tout ce que faisait Pierre Belvès, là où il s'arrêtait, là où il déjeunait, les merveilles qu'il voyait dans les musées, ce qui lui manquait, j'ai racheté des toiles, j'ai racheté des crayons, des peintures. Pour nous, c'était vraiment, vraiment très, très émouvant et intéressant de voir ce parcours. Voilà. Donc, le comte Philippon va financer ensuite un deuxième voyage en Provence, c'est-à-dire le long du Rhône. Il va descendre à Lyon, Orange, Maisons-la-Romaine, Saint-Rémy-de-Provence, Arles, tous les hauts lieux, un peu sur les chemins de Van Gogh et d'autres, hein, bien d'autres. Et la même chose en écrivant toujours ces fameuses lettres au comte Philippon grâce auxquelles nous connaissons le détail de son voyage et de sa découverte. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup, beaucoup compté dans la vie de Pierre. Donc, il va revenir, il ne faut pas que je perde mon fil. Hein, mon fils, c'est Pierre.
Il a quel âge
à ce moment-là? Il a quel âge? Là, c'est en 1929-30. Donc, il est né en 9. Alors, ça fait combien? Voilà. Hein, donc, il est encore tout jeune. Il va partir un an au service militaire. Il va revenir terminer l'école, passer son diplôme et passer son professorat. Il devient donc professeur de la ville de Paris, ce qui lui permet d'avoir une assurance, il devient fonctionnaire, donc ça lui assure un revenu régulier et ça lui permet de continuer à peindre et à faire des recherches pendant les vacances, illustrer, voyager, dessiner. Alors, il se marie à ce moment-là, en 1932, avec Lucienne Belvès. Et ce qui est assez étonnant, c'est que mon beau-père et ma belle-mère se sont mariés un petit peu dans l'intimité à Paris, des raisons familiales diverses, des gens ne pouvaient pas être là. Et on n'avait pas, évidemment, de le faire part de mariage, on n'avait rien. D'ailleurs, on n'avait pas de photo, on n'avait pas de faire part de mariage. Et grâce au comte Philippon, le voilà qui réapparaît, le comte Philippon avait gardé un faire part de mariage fait à la main. Juste pour lui, avec l'église, Jacques dessiné, des petits angelots, elle, Lucienne, P, Pierre, la date du mariage, et on a pu le racheter sur eBay. Donc on a fait encore un petit pas. Donc Pierre va se marier, il va avoir son premier poste d'enseignant à Tournon, au petit lycée du Cardinal, je crois, petit lycée Cardinal. Puis il va être assez rapidement, au bout d'un an, nommé au lycée de... C'est pas au lycée du Parc au départ, au petit lycée Saint-Rambert, à Lyon. Et là, il est donc tout jeune professeur. Là, j'ai pas les photos, mais on voit des photos, vous savez, les photos non pas avec les élèves, mais tous les profs, qui sont tous sévères. Et puis, il y a la petite tête de Pierre Belvès, tout jeune, tout souriant. C'est déjà un peu tout lui, quoi. Voilà. Il apporte un peu de fraîcheur, de renouveau. Il va en apporter beaucoup dans l'enseignement du dessin. À l'époque, c'est professeur de dessin. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va lui confier, alors au petit lycée, alors dans les lycées à l'époque, il y avait les prix, bon, les prix de fin d'année, les prix de fin d'année, et on faisait un discours, je vais vous montrer, parce que moi j'ai découvert, discours de distribution des prix. Alors les parents étaient là, c'était bien avant la guerre, hein, je vous rappelle, en 1933-34, par là, les parents étaient là, les enfants, c'était très 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 rigide, hein, quand même. Et un des professeurs émérites, en général le professeur de français ou de mathématiques, faisait un discours très long, et les parents voyaient les pages s'accumuler en se disant on ne va jamais y arriver. Et là, le directeur du lycée confie à Pierre Belvès, professeur de dessin, de faire le discours de fin d'année. Alors là, c'est une révolution parce que le professeur de dessin, en général, il était un peu au fond, hein, pour une matière tellement importante. C'est là où on se rend compte que... D'ailleurs, toujours un peu comme ça, comme quoi l'éducation nouvelle, à beau être nouvelle, elle ne porte pas forcément des fruits. Ce qui était important, c'était ce qui allait préparer à un métier, c'est-à-dire être ingénieur, docteur, scientifique, ou alors menuisier, boulanger, pâtissier, bien sûr. Mais le dessin, à moins de vouloir être artiste, qui n'était pas tellement recommandable, mais le dessin, globalement, ça ne servait à rien. Voilà. Là, il est tombé sur un directeur qui l'avait compris. Et il a fait tout son petit discours, qui est très amusant, je ne vais pas vous le dire en entier, n'ayez pas peur, hein, mais qui est très drôle, et il y a des petits passages, quand même, que je vais quand même vous lire, parce qu'ils sont, ils sont délicieux. Non, pas ça, ça va être trop long pour vous. Alors oui, il parle de des musées, voilà. Il invite les élèves qui sont là, de toutes les classes et les parents, à aller dans les musées. Il fait de la pub. Et alors, est-ce que je prends dès le départ? Voilà, alors, il dit que, je ne sais pas si je vais pas être trop longue. Non? Vous avez le temps? Alors, qu'allait-on faire, le pauvre élève, machine à apprendre déjà sous pression, allait-il se pencher fiévreusement sur de nouvelles leçons, augmenter encore la longue et fatale liste des dates à retenir, on parle des cours de dessin, et déjà nos élites entendaient les phrases sacrilèges martelées par la règle du professeur. Rembrandt, 1710-1796, est un grand peintre, maître du clair-obscur, il est né à Leyde, il est mort à Amsterdam. Rassurez-vous, le cours d'art que l'on vous donnera sera des plus agréables. Pas de devoirs, pas de leçons, pas d'interrogation individuelle, pas même le supplice de l'interrogation écrite. Simplement un écran et des projections que vous regarderez avec la curiosité des yeux de l'esprit. Le commentaire sera des plus brefs pour qu'il ne gêne en rien la personnalité de votre jugement. Je suis certain que vous apprécierez ce mode d'enseignement et qu'au travers de l'art, il vous rendra utilement curieux. Alors ça, c'est une chose qui est toujours revenue chez Pierre, c'était rendre les enfants curieux. Il était lui-même très curieux et il fallait rendre les enfants curieux. Car si on n'est pas curieux, on ne découvre rien. Alors, c'est difficile de faire des coupures dans un... très difficile de faire des coupures dans un discours. Alors, jusqu'ici, le musée était pour moi un endroit de paix où l'on oublie provisoirement l'activité matérielle de la vie. Un peu de bien-être pour la pensée. C'est bien. Si seulement ça pouvait être comme ça. Si vous êtes allé récemment au musée du Louvre,